Liaisons heureuses, demain, à partir de 15h. France Inter, la différence.
Et c'est l'heure de là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet. Et vous savez quoi, son répondeur, bip.
Vous savez quoi, pour remercier les Basques, à midi, je vais manger du jambon de Bayonne. Voilà. Et c'est normal. Ils nous ont fait rire, ils nous ont fait plaisir. Alors, on les remercie. Donc, si vous voulez vivre les produits régionaux de vos régions, vous savez comment qu'il faut accueillir maintenant le président de la République. Et on fera un effort, on mangera les produits de chez vous.
Bonjour, là-bas, si j'y suis, c'est Jean-Louis de Bayonne. Mais on est très content d'hier d'avoir pu recevoir, comme il fallait, M. Sarkozy. Vous l'aimez de foule, il l'a eu. Pour une fois que les gens qui sont pas super contents de ce qu'il a fait depuis 5 ans peuvent le lui dire, c'était une occasion à saisir et on l'a fait. On a eu un paquet de prout-prout là qui se promenait et qui n'était pas du quartier qu'on voyait bien depuis le matin tourner. Et bien, l'après-midi, il y a eu les gens qui n'étaient pas super contents de lui et qui lui ont fait savoir. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de violence. Les seules violences qu'il y a eu, c'était la violence des policiers qui ont dégagé la rue pour qu'ils puissent partir. Voilà, la violence, elle était là. Et les nationalistes basques présentés comme tels, en tout cas, étaient des gens qui venaient là pour demander que le processus de paix qui n'avance plus avance de nouveau et que l'État français se positionne clairement pour que ce processus de paix aboutisse enfin et que la paix soit sur le Pays basque. Et nous, on est très contents encore d'avoir pu recevoir M. Sarkozy comme il fallait, pour une fois qu'on n'était pas à 300 mètres derrière les barrières et les CRS comme plein de nos collègues en France, et bien on a pu le faire savoir qu'on n'était pas content de lui. Et bien voilà, c'est ça, pour moi la démocratie, c'est de savoir aussi entendre ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Gardons la foi, hein. Adios.
Les militants d'ETA ayant déclaré la trêve armée, ils ne peuvent donc plus être considérés comme des terroristes, car leur lutte est devenue politique. Les militants contre la LGV, la ligne à grande vitesse, ne sont pas non plus des terroristes. Ni les citoyens présents à Bayonne, syndicalistes, opposants politiques, associations, collectifs, fonctionnaires, retraités, étudiants ou citoyens lambda. Ils sont venus défier Sarkozy, le symbole d'une politique de l'argent, où tout a un prix, mais où plus rien n'a de valeur. Une politique néolibérale qui détruit les hommes, leurs conditions de travail, leurs services publics et leur environnement. En qualifiant toute opposition ou contre-pouvoir de terrorisme, on évite tout débat idéologique, car on ne discute pas avec les terroristes. Julien, du Pays Basque.
Je viens d'écouter la radio et je comprends pas ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy à Bayonne. Bah, d'habitude, quand Nicolas se déplace, tous les manifestants et ultra-gauchistes sont gentiment priés par la force publique d'aller perturber ailleurs. Des cars bancartés UMP sont affrétés pour assurer la claque. Que s'est-il passé, Nicolas? Tu perds la main? Ou alors peut-être que tu veux essayer de te faire passer pour une victime? Ah, de toute façon, Nicolas dégage. Ça vaut bien, casse-toi, pauvre con. Allez, c'était Vincent de Paris.
Sarkozy à Bayonne me fait penser à Falluste dans La Folie des Grandeurs. Quand berné par son valet Blaze, il voit courir vers lui les paysans, il dit « Ils m'acclament, oh les braves gens !» Et quand il les voit sortir leurs fourches et qu'il est obligé de fuir, il se met à frapper son valet en criant « Ils ne m'acclamaient pas, ils ne m'acclamaient pas !» On s'est rappelé cette scène avec ma fille de 13 ans et on s'est bien marré.
J'ai adoré l'émission sur Sarkozy. C'était d'une finesse et d'une justesse incomparable en fait. On était dans le vrai du début à la fin. Quand on comprend que les mots que utilise notre cher président ont toute une symbolique, une signification et un but bien précis, on se rend compte que quand tout s'écrase, eh ben, que les mots aussi peuvent le trahir. Et bravo pour l'émission, j'ai adoré.
Dites-moi, monsieur Mermet. Je vous pose la question. Pourquoi vous décortiquez la logorée de Sarko? Hein? Pourquoi? C'est un cadeau aux auditeurs? Pour qu'ils puissent mieux profiter des matinales de France Inter? Je vais vous dire, monsieur Mermet, si ça continue, il faudra que ça cesse. Qu'est-ce qu'ils ont, ces discours? Hein? Ils sont pas bien écrits, peut-être? Ou pas bien lus? Mais monsieur Mermet, il parle au peuple. Il a de la syntaxe, le peuple? Du vocabulaire? Non. Il s'interroge, le peuple. Alors Sarko lui fournit un tas de questions. Et où est le mal, monsieur Mermet? Hein? Je pose la question.
Ben voilà, j'aime bien la façon de poser la question, mais avec un point d'interrogation à la fin de la question. Merci à toutes et à tous pour ces messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis. Aujourd'hui, c'est notre émission mensuelle avec l'équipe du Monde diplomatique. Et on va retrouver Renaud Lambert qui va nous parler des économistes à gages. On va retrouver Alain Grèche qui va nous parler de l'Arabie Saoudite. On dit beaucoup, on a très peur de l'Iran. Iran égale tyran. Mais l'Arabie Saoudite, est-ce que c'est vraiment mieux? En tous les cas, on en parle beaucoup moins. On retrouvera aussi Anaël Verzo, qui s'est intéressé à la Seine-Saint-Denis, au 9-3 et à la transition entre l'adieu au prolétariat et à l'arrivée des cols blancs avec Benoît Bréville. On retrouvera Gérard Duménil pour nous parler relocalisation, réindustrialisation. La relocalisation, ça fait partie du programme du candidat Barack Obama. Et puis avec Jean-Pierre Garnier, eh bien on va découvrir, enfin pour ceux qui l'ignoraient encore, un nouveau BHL, mais ça, ce sera à la fin de cette heure. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour monsieur Daniel Mermet, peut-être vous allez considérer mon message comme un message à l'eau des roses. Eh bien non, détrompez-vous, parce que j'aimerais rendre un hommage très sincère aux petites mains de la maison Lejavi. Vous allez commencer une autre aventure, mais peut-être pour quelques-unes, cela sera à contre-cœur. Ce cœur qui a permis à vos jolis modèles d'être très proches de nôtre. J'ai été très fidèle à votre savoir-faire, à vos jolis modèles, à votre raffinement, pour notre grand plaisir et celui de nos compagnons. Je me sentais encore plus femme quand je portais vos modèles. Je ne comprenais pas pourquoi, petit à petit, ceci disparaissait des grands magasins. J'avais beau demander pourquoi, pas de réponse. Aujourd'hui, je sais. Et quand j'ai appris que les Javi allaient fermer, j'ai été très déçue. Mais surtout, j'ai compati de tout mon cœur avec vous. Et je pense que, comme moi, beaucoup de femmes ne vous oublieront pas.
Bonjour, comme tous les premiers samedis du mois à 17h30, réunion des AMG de Haute-Saint-Onge à Montguyon. Mais attention, changement d'adresse. Le nouveau café repère de Daniel Mermet, toujours animé par Mireille, se tiendra au café de la Poste, même rue, le samedi 3 mars à 17h30. Amis fidèles et nouveaux venus, à demain.
Salut Daniel, c'est Philippe Ambérieux. Alors voilà, excuse-moi, je vais mettre les pieds dans le plat, mais j'aimerais bien reprendre la proposition de Nicolas Sarkozy, puis l'étendre un petit peu, là, cette histoire de profs qui vont bosser 25% de plus, ou qui ne seront pas payés quand ils ne seront pas dans le bahut. Alors à mon avis, on pourrait essayer ça en commençant par les journalistes de France Inter. On les paye quand ils sont devant le micro, et puis quand ils ne sont pas devant le micro, ben on les paye plus. Enfin non, si, on leur file 25% de ce qu'on leur a retiré, ou... enfin tu vois, on se débrouille, mais on les paye que le quart d'heure où ils sont là. Hein, c'est pas une bonne idée ça? Allez, continuez bien, salut.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Pour son prochain rendez-vous, le Café Repère de Saint-Péret en Ardèche vous propose de voir le film Peak Oil of Cuba, qui sera suivi d'un débat sur l'énergie. Je vous donne rendez-vous donc le lundi 5 mars à 20h au bar L'Arconaute, place de la mairie à Saint-Péret. Je vous attends nombreux. C'était Cyril d'Ardèche. Ciao, ciao.
Salut à tous, je voulais, en prévision des futures élections, avertir les spectateurs habituels de TF1, parce que oui, il faut bien commencer par le plus difficile, c'est urgent, à venir faire un petit stage de décontamination en venant voir le film Les Nouveaux Chiens de Garde dans notre petit village d'irréductibles révoltés de gauche, donc à Servan, proche de Thonon-les-Bains, ce vendredi 2 mars à 20h30, suivi d'un débat avec la participation de Fabrice Ferrari. J'ai bien dit Fabrice. Producteur et cinéaste indépendant de la région, bien connu de ses nombreuses associations avec Gilles Perret. Vous en ressortirez donc totalement transformé. Oh, debout les gars, réveillez-vous, les médias ne veillent plus pour nous. Allez, salut, c'était Olivier, bon courage à tous. Ciao.
«
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Renaud Lambert, Alain Grèche, Anaël Verzo, Benoît Bréville, Gérard Duménil et Jean-Pierre Garnier autour du numéro de Mars du Monde Diplomatique. Bon, nous voilà avec le numéro de mars 2012 du Monde Diplomatique et je vais commencer par la fin. Pour qui souhaite connaître la pensée d'Albert Camus et éventuellement s'en pénétrer, il suffira de lire son œuvre. À défaut d'être toujours profonde, elle a le mérite de la clarté. À cet égard, l'ouvrage que Michel Onfray vient de lui consacrer n'est d'aucune utilité. En revanche, pour qui s'intéresserait à la vision du monde et surtout de lui-même de ce philosophe, à succès, la lecture de cette somme est indispensable. Voilà, c'est le début de l'article de fin du diplo de ce mois-ci. Il est signé de Jean-Pierre Garnier, mais ça, ce sera pour la fin. Maintenant, on va faire comme ça, on fait du teasing. C'est la cerise sur le gâteau. Et on va attaquer le gâteau sérieusement avec Renaud Lambert, qui, en une du diplo de ce mois-ci, s'en prend aux économistes à gages. Alors, il y a un certain Lorenzi, qui est vraiment la tête de turc de pas mal de monde en ce moment. On le voit dans les nouveaux chiens gardes, sur tous les écrans. On l'a vu passer dans « Là-bas, si j'y suis », dans une série de reportages de François Ruffin. Et le voilà dans le diplo de ce mois-ci. Mais il n'est pas seul. Ce que nous apprend Renaud Lambert dans ce long papier, c'est peut-être pas si long que ça d'ailleurs, c'est moi qui l'ai trouvé long.
Merci Daniel.
Dans ce papier, c'est que c'est pas seulement une préoccupation limitée à quelques énergumènes dont nous faisons partie, c'est aussi quand même une préoccupation de nos confrères américains, et notamment l'American Economic Association, qui s'intéresse au conflit d'intérêts concernant les économistes entre leurs expertises et les liens qu'ils peuvent avoir avec des institutions financières. Et je suis sûr que Renaud Lambert va nous convaincre de fonder l'équivalent en France.
Oui, bah alors avant d'en arriver là, il faut peut-être expliquer à ceux des auditeurs qui n'auraient pas encore perçu l'ampleur de la question des conflits d'intérêts, il faudrait peut-être leur rappeler ce dont il s'agit. Et au risque de vous étonner, je vais vous parler un petit peu de Lorenzi. Je vais commencer par un article que certains de vos auditeurs ont peut-être lu dans Les Échos le 16 février dernier. C'était une tribune intitulée, je cite, « Réconcilier la finance et la société ». Un article, quand vous le découvrez, vous vous dites « Tiens, ça c'est intéressant ». Et dans cet article, les deux auteurs déplorent, je les cite, que « les opinions publiques aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans la zone euro, ont une vision extrêmement négative de la finance et des banques ». Ils conviennent que cette vision négative est, je les cite à nouveau, certes alimentée par des faits réels, observés, mais selon eux, elle provient surtout d'un défaut d'information et de biais d'analyse. Et là aussi, vous vous dites, tiens, ça c'est vraiment intéressant. Leur conclusion, il est indispensable de réconcilier la finance avec l'opinion publique. Et vous vous dites, qui sont les auteurs qui signent ce papier ? Et vous apprenez que l'un d'entre eux, Jean-Hervé Lorenzi, est président du Cercle des économistes. Cercle des économistes, ça fait sérieux, un peu comme l'autre titre qu'utilise Lorenzi pour se présenter dans les médias, qui est professeur à l'université de Paris-Dauphine. Mais quand vous travaillez dans un journal, vous avez une documentation à votre disposition, notamment le Wouzou, qui est un dictionnaire biographique et qui donne d'autres informations sur les gens que vous rencontrez, dont Lorenzi. Et lorsque vous ouvrez le Wouzou à la page Lorenzi, vous apprenez que cet expert siège au conseil d'administration de la société Page Jaune, d'Associés en Finance, de l'Association française des opérateurs mobiles, de BNP Paribas Assurance, qu'il est censeur de l'air Hermès, une société d'assurance, qu'il est membre des conseils de surveillance, c'est-à-dire vraiment au cœur du pilotage des sociétés, de la compagnie financière Saint-Honoré, de BVA, du groupe Gingère, et qu'il est conseiller du directoire de la compagnie financière Edmond Rothschild.
Eh bien, ça prouve qu'il sait de quoi il parle, au moins.
Exactement, ça prouve qu'il sait de quoi il parle et que son point de vue est très éclairé. Donc, vous êtes dans une situation où vous êtes, le 16 février 2012, au cœur d'une crise financière, une crise dont tout le monde s'accorde pour dire qu'elle est en grande partie due aux turpitudes du monde de la finance, un univers qui a fait preuve d'une imagination débridée dans la mise au point de produits spéculatifs, d'une rare efficacité pour l'enrichissement d'une poignée, mais un peu moins convaincant pour le reste de la population. Donc, au cœur d'une crise du monde de la finance, les banques. Des banques qu'il a fallu renflouer avec de l'argent public, des banques qui désormais bénéficient de prêts à taux très avantageux, 1% de la part de la Banque Centrale Européenne, pour à leur tour prêter de l'argent aux États endettés parce qu'il leur a fallu les renflouer. Donc vous êtes dans cette situation, une crise financière avec les banques au milieu qui semblent en profiter. Et au milieu de cette crise, vous avez un banquier qui vient vous expliquer que tout de même, il faudrait faire un effort pour cesser de s'en prendre aux banques. Mais ce banquier, ni lui, ni les médias qui lui donnent la parole, ne vous expliquent comment il gagne sa vie. Et là, la situation dans laquelle on est, c'est celle que vous évoquiez au début de quand vous me donniez la parole, c'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Une situation dans laquelle les fonctions d'un expert donné, présentées comme au-dessus de la mémé, de la, au-dessus de la...
Ah, on le garde. Au-dessus de la mémé.
De la mêlée. Eh bien, un point de vue dont on peut estimer que ses intérêts particuliers troublent un petit peu sa vision des choses.
Alors avec nous sur ce plateau, l'économiste Jean-Hervé Lorenzi, bonsoir.
Bonsoir. Jean-Paul Bédbez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste. Alors 2010 sera-t-elle l'année de la fin de la crise ?
C'est l'année où ça commence à s'améliorer.
Let's cross live now to London. Lawrence Boone is the head of European Economics at Bank of America. Good afternoon, thank you very much for joining us.
My pleasure.
Et pour aller plus loin, sans détour, je reçois Jean-Hervé Lorenzi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du Cercle des économistes, un cercle de réflexion.
Bon, mais ce Lorenzi dont on parle, eh bien, il n'est pas seul. Il y a tout un tas d'autres experts qui ont à peu près le même profil. On pourrait même dire que les conflits d'intérêts dans le monde de l'expertise économique médiatique, eh bien, c'est la règle plutôt que l'exception. Bon, si ces gens ont toujours la parole, est-ce que c'est parce qu'ils sont meilleurs que les autres ? Mais il arrive quand même de se tromper pas mal. Ainsi, le 17 août 2007, alors que la crise des subprimes vient tout juste de débuter outre-Atlantique, Eli Cohen, qui fait partie de ces experts, annonce déjà la fin dans les colonnes du Monde. Il dit, je le cite, « Dans quelques semaines, le marché se reformera et les affaires reprendront comme auparavant ». Quelques mois plus tard, Alain Minc, un autre de ces économistes engagés à tour de bras pour nous expliquer que la mondialisation est finalement heureuse, que la crise est bientôt finie, eh bien, il s'enthousiasme de, je cite, « l'incroyable plasticité du système ». Et son verdict, l'économie mondiale est plutôt bien gérée. Alors ces gens, les citations, on pourrait les accumuler, on observerait que ces gens se trompent beaucoup. Et qu'en général, leurs erreurs ne dérangent pas trop l'univers bancaire. Est-ce que c'est vraiment...
Ni médiatique.
Et on peut se poser une question qui est la question que se pose Charles Ferguson, qui est le réalisateur du documentaire Inside Job, qui décortique la crise financière. Il se demande, si un chercheur en médecine écrivait un article disant... Pour soigner cette maladie, il faut prescrire tel médicament. Et s'il s'avérait que ce médecin recevait 80% de ses revenus du fabricant de médicaments, est-ce qu'on lui ferait confiance ? Cette question, en France, on n'y a toujours pas répondu. Mais aux États-Unis, effectivement, les choses semblent avancer. L'Association américaine d'économie, qui comporte environ 17 000 membres, qui va fêter son 130e anniversaire, vient de décider, c'est très récent, le 5 janvier 2012, que dorénavant, elle demanderait à tous les auteurs qui contribuent à ses revues de déclarer leur conflit d'intérêts. Non seulement elle leur demanderait de les lui déclarer, mais elle se réservait la possibilité d'en informer les lecteurs. Un conflit d'intérêts, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir reçu, sur une période de 3 ans, 10 000 dollars ou plus d'une partie intéressée, c'est-à-dire une entreprise dont les intérêts directs sont touchés par l'expertise ou le papier qui va être publié. Non seulement l'Association américaine d'économie exige cela de ses auteurs, mais elle les invite très sérieusement, avec beaucoup d'appui, à procéder de la sorte dans leurs interventions médiatiques. Tribunes, entretiens à la presse, passages dans des matinales de radio de service public, par exemple, pour expliquer le fonctionnement de la crise. Alors, aux États-Unis, ça pourrait conduire à changer certaines choses. En France, lorsque vous interrogez Jean-Hervé Lorenzi, pour revenir à lui, sur de telles mesures, il vous explique, je le cite, que tout cela a un parfum d'années 30.
Alors, monsieur Jean-Hervé Lorenzi.
Là-bas, si j'y suis, 2 janvier 2012.
Vous êtes à la compagnie financière Edmond Rothschild. J'ai relevé d'autres casquettes. Vous me dites si elles sont exactes ou pas. Membre du conseil de surveillance de la compagnie financière Saint-Honoré, conseiller du directoire de la compagnie financière Edmond Rothschild, membre du conseil d'administration Eramet, groupe minier métallurgique, c'est ça ?
Oui, mais attendez, on va pas repartir sur.
Oui.
Non mais c'est pas le sujet. À part mes préférences sexuelles, je n'ai rien d'autre.
Ah bon, quelles sont vos préférences sexuelles alors ?
Voilà, je reste sujet. Non, on discute sérieusement parce qu'on a quand même la conjoncture économique personnalisée. Je trouvais que ça avait des parfums de un peu des années 30.
Il se trouve que dans les années 30, Paul Nizan écrivait ces lignes au sujet des chiens de garde qu'il dénonçait à l'époque, les philosophes qui ressemblent beaucoup à nos experts. Je le cite, « Nous n'accepterons pas éternellement que le respect accordé au masque des philosophes ne soit finalement profitable qu'au pouvoir des banquiers. »
Alors, on va parler des intellos là avec Jean-Pierre Garnier, on va parler d'un intello au frais, mais je me demande quand même qui sont les plus influents aujourd'hui. Est-ce que c'est des gens comme Onfray, BHL ou des intellos en règle générale? Ou bien est-ce que c'est ces économistes-là qui fabriquent une normalité, une évidence et une doxa? C'est à vous que je pose la question, Jean-Pierre.
Ah bien, il n'y a pas de doute que les plus influents sont les économistes en question. Ils sont directement liés au pouvoir économique, à la classe dirigeante. Il y a un oubli qui a été fait là tout de suite concernant Lorenzi. Il faut savoir que dans le cercle rapproché, c'est le monde qui parle, des experts économiques qui conseillent actuellement François Hollande, vous en avez trois. Il y en a un, c'est un économiste Philippe Aguillon, néolibéral pur jus. Le deuxième, c'est Lee Cohen. Et le troisième, c'est Lorenzi. Alors, avis aux électeurs qui ont voté Hollande, là, c'est blanc bonnet, bonnet rose, plein pot.
Alain Grèche a une observation à faire.
Juste une remarque. Ce que Renaud a dit sur un certain nombre d'experts... On peut l'avoir effectivement sur les philosophes, sur les experts de politique internationale qui n'arrêtent pas de se tromper, qu'on va réinterroger, etc. Mais là, il y a quelque chose quand même de particulier. Là, le conflit d'intérêts, je veux dire, on ne va pas interroger un responsable d'un parti politique pour lui demander son avis sur le PS ou la droite sans dire qu'il est membre de tel ou tel parti. Mais là, on a vraiment quelque chose de particulier qui est réservé aux économistes. C'est-à-dire qu'ils sont tous partie prenante et les médias camoufle ça complètement sous l'idée que c'est objectif. En plus, avec l'idée, finalement, l'économie, vous savez, c'est une science. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et ceux qui savent, qui nous parlent comme par hasard, c'est jamais les économistes qui travaillent avec les syndicats. Jamais on va vous... Et si on interroge un dirigeant syndical ou un économiste qui est lié à un syndicat, on va vous dire il est lié à la CGT, la CFDT, ce qui est normal d'ailleurs. Mais on va jamais vous dire il est lié à une banque. C'est vraiment quelque chose de particulier, je trouve, pour les économistes.
Gérard Duménil.
Oui, je veux souligner le fait que dans l'article très très intéressant de Lambert, il y a en fait deux aspects qui vient de rappeler. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect conflit d'intérêts, mais il y a aussi le deuxième aspect qui est l'aspect expertise. Alors là, effectivement, la différence avec les philosophes est très importante, parce qu'il se trouve que les économistes sont amenés à dire des choses extrêmement précises sur l'analyse de phénomènes récents ou sur un futur proche. Or, ce travail, à l'université, dans la presse, ce travail de rapprochement entre ce qui a été dit et puis ce qui s'est produit, n'est, à ma connaissance d'économiste, jamais fait. Et c'est quand même très intéressant. Et là, on voit surgir ces notions. Quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, qu'on voit les économistes de certaines banques du système de la réserve fédérale, quand on voit les économistes français, partout, on va trouver la même chose. C'est-à-dire ce que la citation qui a été faite tout à l'heure par rapport au fait que la crise avait à peine commencé, que déjà les économistes disaient c'est fini, mais on trouve partout exactement la même chose aux États-Unis par les économistes les plus en place. Moi, quand je faisais des exposés, disons en 2008 par exemple, il y avait toujours quelqu'un pour me dire « Oui, mais un tel grand économiste américain vient de dire « Ça y est, maintenant on est sorti, c'est fini, etc. Comment pouvez-vous dire que ça va durer? Comment pouvez-vous montrer ça ?» Et ça, je crois que c'est une chose absolument essentielle. Parce que ces gens gagnent leur vie, je dirais pas qu'ils ont raison, parce que moi, en tant que vieux gauchiste pur et dur, ça me choque quand même terriblement. Mais il y a quelque chose d'encore bien plus grave, qui est la fictivité totale de cette expertise et de ce prétendu savoir, ou de cette prétendue science dont on vient de parler. Et ce bilan, il faudrait le faire. Il y a qu'à prendre les articles qu'ils écrivaient, que la presse publiait du temps, du boom, des nouvelles technologies dans la deuxième moitié des années 90. Il y a qu'à prendre les articles qu'ils écrivaient sur les États-Unis dans les années 2000 ou sur la Chine. Et puis il y a qu'à arriver jusqu'à la crise actuelle et puis voir ce qu'ils sont en train d'écrire maintenant. Alors là, il y a un bilan à faire, mais ce bilan, il serait mortel.
Alain Grèche.
Tout le monde a le droit de se tromper, c'est pas la question, personne n'est... Mais il y a quand même quelque chose sur le rôle même de ces experts, c'est-à-dire c'est l'idée, finalement, il y a quelqu'un qui parle d'ailleurs, du ciel, et qui nous dit la vérité. Et alors, la vérité, elle peut changer tous les jours. Mais c'est aussi un système, un fonctionnement médiatique qui est important dans tous les domaines, quoi.
Alain Minc est l'archétype même du premier de la classe.
Cet expert extraordinaire conseille en effet aussi bien les grands patrons que les ministres et les chefs d'État.
Les nouveaux chiens de garde.
Dans les médias, il est à la fois sur scène et dans les coulisses.
Un film de Gilles Balbastre.
En 2005, son ami Vincent Bolloré, ami de son ami Nicolas Sarkozy, lui a offert une émission sur sa toute nouvelle chaîne, Direct 8.
Bonsoir, bonne année à tous. J'espère que
nous sommes le 5 janvier 2008. Alain Minc a comme invité l'incontournable Christian de Boissieu. Tous deux s'entretiennent sur les prémices de la crise américaine des subprimes, qui, rappelons-le, conduira 9 mois plus tard à l'écroulement dramatique des marchés financiers de l'automne 2008.
On nous aurait dit qu'au fond, le système financier serait régulé avec un doigté tel. C'est quand même, je veux dire, un univers qui est finalement, sans qu'il y ait d'organes apparents de régulation, très bien régulé. Et l'économie mondiale est plutôt bien gérée.
6 mois plus tard, le 7 juin 2008, Alain Minc fait à nouveau preuve du même optimisme. Il invite un autre expert, Daniel Cohen, à la fois éditorialiste au Monde et conseiller à la Banque Lazare. Le 7 juin, c'est, rappelons-le, 3 mois avant le krach de septembre 2008.
Le risque que la crise financière dérape en crise systémique où les banques tomberaient comme des dominos, ça semble écarté.
On continue avec les experts du monde diplomatique autour de ce numéro, de mars. Et on va demander à Alain Grèche de nous éclairer sur l'Arabie Saoudite par rapport à l'Iran, la situation en Syrie, et puis, ce que vous voulez, mon
cher Alain. Non, je vais évoquer l'édito que Serge Halimi a fait à propos de l'impunité saoudienne, qui est quand même une chose que personne ne relève, quoi qu'on pense de ce qui se passe en Syrie, j'y reviendrai. C'est que, qui peut penser un instant sérieusement que l'Arabie Saoudite, qui est à la pointe des mesures à prendre contre le régime syrien, est mu par sa volonté de voir instaurer la démocratie en Syrie. Quoi qu'on pense encore une fois de la Syrie, je veux dire, on devrait s'interroger, mais personne ne le fait, de savoir pourquoi cette monarchie, où il n'y a pas d'élection, où on connaît la situation qui est faite aux femmes, etc., pourquoi cette monarchie brusquement devient le fer de lance de la révolution arabe. C'est quand même quelque chose d'incroyable quand on sait que cette révolution, elle s'est faite au nom de la fin des pouvoirs autoritaires, que ce soit celui de Bachar el-Assad ou que ce soit celui de la monarchie saoudienne. Donc il y a là quelque chose qui est important
et qui est un éclairage que nous, on essaye de donner à travers l'éditorial de Serge, à travers un article de Gary Sick, qui est un Américain qui est un conseiller de Carter sur les questions de l'Iran et donc des sanctions contre l'Iran, de dire que dans ce qui se passe au Proche-Orient, il y a une dimension de la volonté des peuples d'en finir avec des régimes autoritaires et dictatoriaux. Elle est tout à fait réelle et il faut la soutenir. Mais il y a aussi une dimension qui est une politique américaine, israélienne et saoudienne d'en finir avec l'Iran. Pas du tout parce que l'Iran serait une théocratie ou violerait les droits de la personne. Je veux dire, l'Arabie saoudite viole les droits de la personne sans que ça provoque une mobilisation internationale. Mais il y a un objectif géopolitique. Et dire qu'il y a cet objectif géopolitique, c'est aussi c'est appelé à la lucidité par rapport à ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est une position qui est difficile à tenir. On est tellement, si vous voulez, aujourd'hui, sous le coup de l'émotion justifiée par rapport à la mort de nos confrères à Homs, par rapport aux agissements du régime, qui sont des agissements parfois barbares, réellement, que finalement, on perd de vue un certain nombre de choses que nous, on essaye d'éclairer en montrant que, par exemple, l'opposition syrienne est dans une situation très compliquée, avec des divisions, avec des tendances, enfin, avec des combattants étrangers. D'abord, qu'elle n'est pas désarmée. Je veux dire, il y a des combattants étrangers. Quand on parle de 7500 morts, c'est vrai, mais jamais personne ne dit combien de morts militaires il y a. C'est des deux côtés. Il y a des combats. Alors, c'est vrai que l'armée syrienne a plus de moyens que les combattants, mais c'est vrai que ces combattants sont divisés. C'est vrai qu'une partie de l'opposition est contre cette militarisation qui est en train d'être imposée, notamment par les Saoudiens et les Qataris qui veulent armer. Il y a des combattants d'Al-Qaïda qui arrivent d'Irak, qui arrivent du Liban. Tout ça, c'est... Ce n'est pas pour, encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est toujours compliqué de savoir comment on tient les deux bouts, comme on dit, c'est-à-dire à la fois de ne pas apparaître comme soutenir ce régime qui est un régime qui doit changer comme tous les régimes dans le monde arabe, et en même temps de ne pas être naïf en ne mesurant pas, c'est pas seulement la naïveté, je veux dire, il y a un risque en Syrie d'affrontement ethnico-confessionnel avec des minorités qui, enfin, je veux dire, on l'a vu, l'appel assez hallucinant de Alain Juppé aux chrétiens syriens pour qu'ils ne choisissent pas le mauvais camp. Les chrétiens syriens, qui sont 10% de la population, sont divisés en beaucoup d'églises, ont vu arriver, après 2003, 1 million de réfugiés d'Irak, dont des centaines de milliers de chrétiens, qui ont fui à la fois le désordre, les persécutions, etc. Et nous, le gouvernement français leur dit « Ah non, n'ayez pas peur, tout va bien se passer ». Mais c'est pas que les chrétiens soutiennent le régime, c'est que les chrétiens ont peur, à juste titre, de ce qui va se passer après, et demandent des garanties de l'opposition, garanties que le Conseil national syrien ne donne pas vraiment. Et on a vu l'autre aspect, c'est les Kurdes, qui sont quand même une partie importante. C'est eux qui ont commencé les manifestations, les Kurdes. Ça a été la première fraction à descendre dans la rue. Aujourd'hui, ils ont rompu avec l'opposition. Ils ne soutiennent pas le régime. Mais ils s'inquiètent du fait que le Conseil national syrien, sous influence essentiellement des islamistes les plus radicaux, refuse de reconnaître leurs droits en tant que Kurdes, c'est-à-dire non-arabes, etc. Donc c'est cette situation compliquée qu'on veut essayer de montrer et qui est importante d'expliquer, avec le fait qu'on est dans un déferlement médiatique tel qu'on en a eu l'expérience depuis maintenant 1990-91, depuis la première guerre du Golfe, quand l'armée irakienne débranchait soi-disant les bébés dans les couveuses. Enfin, on sait à quel point il est facile d'utiliser l'émotion pour dire brusquement « oui, ce régime est particulièrement odieux, mais on cache ce qui se passe en Arabie saoudite ou au Bahreïn, où il y a une répression qui touche un peuple en révolte depuis plus d'un an. »
Nous ne tuons pas notre peuple.
Bachar al-Assad.
Aucun gouvernement dans le monde ne tue son propre peuple.
ABC, 7 décembre 2011.
À moins d'être dirigé par un fou.
Cet homme était sorti pour acheter du pain et du mousse pour ses jeunes frères. Et il a été abattu dans cette même rue du quartier. C'est un sniper qui l'a abattu.
Je suis devenu président grâce au soutien de mon peuple. Il est impossible que quiconque dans mon pays ait pu donner l'ordre de tuer.
Gérard Duménil, on continue avec le diplôme de Mars autour de la réindustrialisation. La désindustrialisation, on a commencé par la désindustrialisation, maintenant on parle de réindustrialisation, on a fait de la délocalisation, on va relocaliser, et c'est un dossier qui s'appelle « Retour à l'usine ». Alors je vous donne quatre termes, hein, désindustrialisation, réindustrialisation, délocalisation, relocalisation. Voilà, vous avez 3 minutes.
Bon, alors, je crois qu'il faut quand même resituer un petit peu cette discussion dans le cadre politique actuel. Hein. Aussi bien en France qu'aux États-Unis, on est, disons, dans des circonstances qu'on peut qualifier d'électorales. Et ces circonstances-là font qu'émergent un certain nombre de discours qui sont des discours qui ont des apparences critiques, hein, ou qui ont des apparences, justement, de remise en question de ce que j'appelais tout à l'heure le néolibéralisme. Alors, par exemple, on voit les gens, maintenant, s'en prendre à la finance. Donc, maintenant, apparaît un nouveau thème, extrêmement intéressant, qui est ce thème de la désindustrialisation et le thème de la réindustrialisation ou relocalisation. Alors, premièrement, ce phénomène de désindustrialisation, c'est un phénomène réel, hein. Tout le monde sait très bien, aux États-Unis et même en Allemagne, je sais pas, prenons l'Allemagne, par exemple, de 60 jusqu'à nos jours, la part de l'industrie dans la production totale a chuté de moitié, quoi, disons. Mais, évidemment, dans le capitalisme actuel, il y a cette tendance absolument extraordinaire à l'ouverture des frontières et donc à aller investir ailleurs. Alors, Obama, par exemple, dans sa campagne, nous parle de, maintenant, on va réindustrialiser. Mais alors, il faut écouter ce qu'il dit derrière, hein, qui est quand même extrêmement intéressant. Eh bien, il explique aux entreprises que, en fait, c'est plus intéressant d'investir en Chine pour une double raison qui est, ou triple raison, qui est la hausse du cours d'échange réel de la monnaie chinoise, qui a été quand même considérable, puisque de 2000 jusqu'à maintenant, ça a augmenté à peu près de 40%, disons presque la moitié, pour des raisons de hausse des salaires en Chine, qui sont surtout d'ailleurs les hausses des salaires des cadres, hein, comme partout dans le néolibéralisme, pendant que les salaires de la grande masse de la population sont stagnent ou sont écrasés. Hein. Bon, et puis la baisse des salaires, la compression des salaires aux États-Unis. Donc on arrive à cette situation qu'on trouve dans des tas de rapports américains, qui nous dit, oui, mais si vous allez dans certains États, si vous allez dans certaines couches de population, vous allez trouver des gens qui sont prêts à travailler pour 3 fois rien. Hein. Alors pourquoi vous allez exporter? Alors tout d'un coup, vous voyez là le basculement qui se produit là, c'est-à-dire Obama nous dit, ah, on va réindustrialiser. Et il se met à parler comme ses études et comme ses rapports, et qui nous disent « Mais je vous demande pas des sacrifices, vous avez tout simplement intérêt à revenir investir chez nous ». Et justement, ce problème-là fait tout à fait la transition par rapport à la situation européenne, parce qu'il faut en parler quand même, et l'article justement en parle, c'est ce problème de l'Allemagne. Alors ça, c'est un lieu...
Ah ben ça, c'est un modèle pour nous, l'Allemagne.
Voilà.
Ah ben ça, oui, moi...
L'article discute ça de façon un peu détaillée. Évidemment, bon, la situation en Allemagne est différente de la situation française. Mais par exemple, si vous regardez le numéro du diplôme, vous verrez les figures que nous avons mises, quand même assez intéressant, parce que nous montrons là la production, appelée PIB, enfin la production totale, hein, allemande et française. Eh bien, figurez-vous ceci, c'est que la France croit beaucoup mieux que l'Allemagne. Pas énormément mieux, mais elle croit quand même nettement mieux que l'Allemagne. Alors vous allez dire, mais attendez, les Lorenzi, les machins, ils arrivent, et puis qui vous disent, et ce que vous entendez aux infos tous les jours, ce que vous lisez dans la grande presse, je ne veux pas citer le journal que j'ai toujours le courage de regarder tous les jours, hein, et qui me pose beaucoup de problèmes, et qu'est-ce qu'ils racontent? Eh bien, regardez la courbe et vous verrez. Hein, vous verrez. L'Allemagne a connu une récession, a culminé avant la crise, elle a connu une récession très profonde, beaucoup plus profonde que la France, et puis depuis ce temps-là, elle récupère. La France, elle a connu ce point culminant avant la crise, ensuite ils se sont forcés dans la crise, et puis ils ont récupéré, et comparé les deux courbes. Eh bien l'Allemagne récupère lentement son niveau d'avant la crise, comme la France récupère lentement son niveau d'avant la crise, et si les taux que nous présentent nos experts sont plus forts, c'est parce que, eh bien, l'Allemagne était tombée beaucoup plus profond que la France. Quand vous regardez l'économie des États-Unis dans les années 30, ou même sur une très très longue période, vous apercevez que l'année 34 ou 35, c'est l'année de plus forte croissance des États-Unis. Vous voyez? Pourquoi? Bah, parce qu'on vient de tomber dans un précipice, et puis alors, c'est la fameuse, c'est une courbe en V, on est en train de récupérer. Alors, baratin, hein, baratin absolument total. Parce que la grosse idée, c'est imiter l'Allemagne. Imiter l'Allemagne, ça veut dire casser les bas salaires, ça veut dire défoncer les systèmes de protection sociale, ce qu'ils ont fait allègrement avant la crise d'ailleurs, donc nous allons imiter le modèle allemand. Et lorsque nous aurons imité le modèle allemand, nous allons croître merveilleusement. Réponse, rien de tout ça, rien de rien. Maintenant, il faut voir l'autre côté des choses. Oui, l'industrie allemande est quelque chose de puissant. Bon, mais depuis 2004... rupture, c'est-à-dire que la France est partie dans une stratégie comme une stratégie américaine, c'est-à-dire le choix massif de la délocalisation. Ouais. Ça, c'est une stratégie des sociétés françaises. Vous allez dire, ah, ou plutôt, si j'étais en face dans un débat avec quelqu'un du MEDEF, il me dirait, c'est normal, voyez les charges sociales, tout ça. Ben non, manque de chance, comme l'indique un autre article de ce numéro, eh bien, les coûts salariaux en France, ils sont pas plus élevés qu'en Allemagne. Et en fait, pour un patron qui paye à la Sécu ou qui paye du salaire direct, qu'est-ce que ça change pour lui, hein? 1 euro, c'est 1 euro, donc c'est pas le problème. Bon, voilà. Donc maintenant, le miracle industriel allemand, il existe, il a des avantages énormes, en ce sens que oui, depuis 2004 ou 2005, ils ont choisi une autre stratégie qui est plus efficace que la stratégie française. Ils ont réussi à développer leur industrie. Alors ça se fait avec des méthodes différentes, beaucoup moins de délocalisation. Par contre, sous-traitance massive en Europe de l'Est, cassage, comme je l'ai dit, massif des bas salaires en Allemagne. Voilà. Donc avec ça, ils ont réussi quelque chose, effectivement, de maintenir leur industrie très haut. Et depuis 2004, il y a un divorce qui est un phénomène nouveau, complet, entre la France et l'Allemagne d'un point de vue industriel. Donc pour l'Allemagne, c'est un avantage évidemment énorme d'avoir un déficit public qui est pas très fort, d'avoir un excédent du commerce extérieur, qui est quelque chose de nouveau hein, par rapport à la France. Bon, c'est un avantage énorme. Et la France, avec cette nouvelle stratégie industrielle, s'en tire mal et est en train de creuser régulièrement son déficit du commerce extérieur. Donc le bilan que je veux faire là-dedans pour conclure, c'est premièrement, il faut arrêter de nous raser avec le modèle allemand qui serait sensationnel. C'est une façon de nous imposer l'austérité, etc. Donc la conclusion de l'article, c'est évidemment réindustrialisation. Il faut ramener sur le territoire national. C'est absolument nécessaire. Mais attention, la stratégie qui est, les stratégies qui sont actuellement suivies, ce sont des stratégies qui sont 100% dans la logique néolibérale, dont un aspect central est cassage des salaires. On le voit aux États-Unis que ça commence à produire des effets, et donc il y a certains espoirs qui apparaissent de ce point de vue-là. Donc nous disons, cette réindustrialisation-là, de toute façon il faut la réindustrialisation, mais la méthode par laquelle elle est approchée actuellement, eh bien c'est le triomphe de la mondialisation néolibérale. Et bien entendu, c'est quelque chose que nous, politiquement, nous refusons complètement.
Alors on continue avec le diplo de ce mois de mars. Et là, on va aller dans la Seine-Saint-Denis, dans le 93. Alors si on dit Seine-Saint-Denis et 93, il y a tout de suite deux images qui surgissent. Pour les plus âgés, c'est la banlieue rouge, la banlieue ouvrière. Et puis pour les plus jeunes, c'est peut-être Karcher, Racaille, en tous les cas, mauvaise réputation. Et il y a quand même une autre image qui devrait surgir tout de suite. C'est le côté quartier d'affaires. On a chaque jour 40 000 personnes qui viennent par le RER travailler dans ce quartier d'affaires au cœur d'une ville populaire. Et là, Anaël, Verzo, vous avez un reportage avec Benoît Bréville sur le passage des cols bleus au col blanc, sachant qu'il s'agit de deux mondes qui ne se mélangent pas.
Voilà, donc on a donc à la Plaine Saint-Denis 40 000 salariés, comme vous l'avez dit, qui viennent tous les jours donc dans l'une des 1700 entreprises de la Plaine Saint-Denis. Mmh. La Plaine Saint-Denis, qui était le premier espace industriel d'Europe au XIXe siècle, est devenu maintenant le troisième pôle d'affaires francilien. Et ce qui est flagrant quand on arrive à la gare de RER de la Plaine Saint-Denis, c'est qu'on a un croisement de deux populations. D'un côté, on a tous ces cadres costards-cravates qui arrivent pour travailler dans l'une de ces entreprises. Et de l'autre, sur le quai d'en face, on a les Dionysiens qui partent...
Les habitants de Saint-Denis.
Les habitants de Saint-Denis qui partent travailler ailleurs. Enfin, c'est la moitié des habitants de Seine-Saint-Denis qui partent tous les matins travailler en dehors du département. Ce qui est flagrant aussi quand on arrive à cette gare de la Plaine Saint-Denis, c'est... le décalage entre d'un côté des entreprises immenses, modernes, sur des kilomètres et des kilomètres, Et tout ça, à quelques mètres de ces entreprises, on a la cité des Francs-Moisins, par exemple. On a aussi des quartiers comme Cristino Garcia, le quartier espagnol. C'était là, d'ailleurs, qu'il y avait les quatre campements de Rome qui ont été dégagés cet été. Bon. Et de l'autre côté de la rue, on a une partie beaucoup plus modernisée, avec des habitations certaines aux normes écologiques, etc. C'est d'ailleurs là que réside l'actuel maire de Saint-Denis. Bon, et donc, c'est cette dichotomie entre, d'un côté, une population...
Pourquoi ça ne se mélange pas? Pourquoi est-ce que ce développement-là a apporté des emplois aux habitants dionysiens?
Alors, justement, la mairie et pleine commune disent que, grâce à leur charte, donc qui s'appelle charte entreprise-territoire, qui date de 2005, entre 2005 et 2009, on aurait eu 2500 personnes habitant une des huit villes de pleine commune qui aurait trouvé un emploi grâce à cette charte. Sauf que ce qu'on a trouvé avec Benoît à Bréville, c'est que en réalité, ce sont des emplois précaires, beaucoup des emplois sur des chantiers, 2 semaines par ici, 3 semaines par là, etc. Donc ça correspond pas à des emplois réels, en vérité. Les habitants ont été globalement très déçus, en fait, parce qu'ils s'attendaient, en voyant arriver toutes ces entreprises, à être embauchés, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que d'abord, il y a un problème certainement de qualification. Là, ce sont essentiellement des entreprises de services avec des cadres supérieurs, surdiplômés, etc. Donc c'est un argument d'ailleurs que font valoir les entreprises pour ne pas embaucher les habitants de Saint-Denis.
Mais est-ce que ces cadres, ces cols blancs s'installent à Saint-Denis?
Non, ils commencent tout juste à s'installer. Mais malgré une volonté politique locale de faire venir les cadres, pour le moment, il y a une réticence de la part des cadres à s'installer là, parce qu'il y a une crainte qui est celle de l'insécurité. Pour eux, la Seine-Saint-Denis, et Saint-Denis, c'est une ville, un département et une ville dangereuse. Et d'ailleurs, ceux qui travaillent à la plaine Saint-Denis sont assez protégés par leurs entreprises.
Il y a des navettes qui les conduisent entre la sortie du métro et l'entreprise, dans la crainte de se faire piquer son portable. C'est ça, Benoît Bréville?
Voilà, bon, d'un autre côté, c'est aussi une crainte.
Sur BlackBerry.
C'est aussi une crainte réelle parce que les entreprises comme Orange, etc., ont constaté un certain nombre d'agressions sur les trajets entre les entreprises et le RER et du coup, elles ont mis en place des navettes, notamment BNP Paribas, par exemple, qui vont chercher les gens à la sortie du RER et font 300 mètres et les déposent devant le siège social de BNP Paribas. Effectivement, il y a une volonté municipale de faire installer des nouvelles populations un petit peu plus aisées que la population de Saint-Denis habituelle. Et je pense que ce qui marche pas, notamment contrairement à Montreuil, par exemple, ou Pantin, c'est notamment le fait que Saint-Denis demeure une ville populaire parce que c'est une ville qui compte encore plus de 50% de logements sociaux. Et il y a une volonté, que beaucoup de travaux sociologiques montrent, d'un entre-soi chez les classes sociales en général, que ce soit les classes aisées ou les classes populaires d'ailleurs. Et cette volonté d'entre-soi fait que les classes moyennes supérieures ont pas envie d'aller habiter à côté des cités de logement social de Saint-Denis parce que, du coup, les écoles ont mauvaise réputation, l'usage de la ville est différent aussi en fonction de classe sociale où les classes populaires occupent beaucoup plus les rues que ce que peuvent les faire les classes bourgeoises qui sont plus...
Alors, on peut parler de ségrégation sociale, on peut... Ou pas encore, ou ça va se faire, ça va s'arranger peu à peu, ça va dans quelle direction?
On se mélange pas, mais quand même, on peut penser qu'à terme, dans quelques années, les classes populaires seront repoussées encore beaucoup plus loin de Paris et donc des emplois.
1, 2, 3, 4. Là, le ministère des Affaires Populaires, au-delà de toute frontière, plus de ghetto, plus de barrière, dans l'eau, tous des frères, plein de repères, Jacques Brelpont, Marley, Aznav, la Bébière, notre art populaire, musique d'ici et d'ailleurs, on en a fait un ministère pour un monde meilleur, d'influence, d'influence, de sonorités différentes, de Roubaix à New York en passant par Alger la Blanche, du bon son pour tout le monde, du Joe Dernier jusqu'au grand-père, là, le bal populaire, vers son troisième millénaire, juste pour faire bouger les consciences, vasser les préjugés, rien à faire, qu'à entrer dans la danse, laisser aller. À l'heure du repli communautaire à l'heure d'une troisième guerre, aux ordres on reste réfractaires, attitude salutaire, que ceux qui jouent avec les peurs pyromanes incendiaires prennent ce morceau en plein cœur comme une balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde, un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire.
On continue et on finit avec le diplôme de ce mois de mars. Comme promis, on va s'intéresser à la dernière page du diplôme avec le papier de Jean-Pierre Garnier, le dernier nouveau philosophe. J'ai l'impression que BHL, c'est fini. le diplôme vous annonce la naissance d'un nouveau BHL qui s'appelle...
Michel Onfray. Bah, c'est-à-dire que Michel Onfray pourrait être dans l'actualité même, cinématographique tout court. On a parlé des nouveaux chiens de garde. Eh bien, je crois que le dernier en date, c'est Michel Onfray. C'est un chien de garde, mais il a un collier un peu particulier. Dessus, il y a écrit « Libertaire ». Ce qui crée une certaine confusion parmi ses lecteurs. C'est à partir du dernier ouvrage de Michel Onfray, qui en pond à peu près 2 ou 3 par an, consacré à la vie philosophique d'Albert Camus. Bon, dans cet ouvrage, qui éviterait d'ailleurs, il a un avantage, c'est qu'il évite de lire tous les autres. Il y a véritablement, si on faisait un petit précis, un traité onfrologique, il y a à peu près tous ses dadas. Mais alors, exposé de manière caricaturale. Parce que plus il a du succès, plus il se caricature lui-même. Ça n'est pas les vies philosophiques d'Albert Camus auxquelles on a affaire, c'est la vie philosophique d'Albert Camus vue à travers la vie philosophique de Michel Onfray.
Mais ça, BHL l'avait déjà fait, ça. Oui. BHL, il était Sartre, il était...
Oui, mais alors lui, il n'est pas... Là, je vais y revenir aussi. Il n'est surtout pas Sartre. Je peux tout de suite indiquer que l'auteur le plus cité par Onfray, c'est Sartre. Mais c'est véritablement la bête noire et rouge, si on peut dire, de Michel Onfray. Sartre se fait traîner dans la boue depuis la 3e page jusqu'à un supplément bibliographique consacré au couple Sartre et Simone de Beauvoir. Les mots qui viennent le plus souvent derrière Sartre, c'est « il a du sang sur les mains », il y a « Mirador »,« socialisme des barbelés », « tribunaux révolutionnaires ». Sartre est accusé absolument de tous les maux depuis le départ. Alors, il y a un problème. Il y a un problème très net. C'est que Michel Onfray déteste ce qu'il appelle le petit milieu parisien. Toujours à travers Camus. Camus aurait été un paria et mal reconnu victime des intellectuels de gauche parisiens. Ce qui est totalement faux. Albert Camus a fait partie du tout Paris. Il était reconnu. Aux premières de ses pièces, Caligula et compagnie, il y avait un monde fou. Il n'a jamais été un paria du petit monde parisien. Alors, un tissu de mensonges, des contre-vérités, des truismes, la philosophie. Alors, effectivement, il dit, oui, les intellectuels parisiens ont dit que Albert Camus était un auteur pour les classes terminales. Mais moi, je vous dirais tout de suite, il suffit de le lire, Michel Onfray, c'est un philosophe pour tête de gondole dans les supermarchés, Fnac compris. Ce qui est dommage. Oui, ce qui est dommage. Il a dû son aura...
Je perds 1000 auditeurs à la seconde.
Mais je suis prêt à le démontrer. Le problème, c'est qu'en 9500 signes, faut pas oublier qu'il faut s'infuser. Le bouquin sur Camus fait 550 et quelques pages. Et je suis peut-être l'un des rares lecteurs à l'avoir lu 3 fois.
Oh.
Et de près. Alors, à part ça, il accuse tous les autres de manichéisme. Alors que tout son livre est ponctué d'oxymores. Alors, par exemple, Nietzscheïsme de gauche. Capitalisme libertaire, évolution révolutionnaire. La dialectique, il déteste. D'abord, c'est un concept allemand. Parce qu'il faut voir aussi les interprétations. Il y a une philosophie solaire, méditerranéenne et lumineuse, du Sud. Et puis, il y a la philosophie sombre, animée par une pulsion de mort, je cite, hein, qui est celle du Nord et surtout de l'Est, hein, qui regroupe les terroristes slaves, le bolchevisme. Mais il faut voir, c'est grotesque. Alors, effectivement... Cette philosophie solaire, qui est en fait une philosophie sommaire, il n'est pas étonnant qu'elle ait rencontré beaucoup de succès. Et je dois dire que, malheureusement, le succès initial de Onfray est dû au milieu anarchiste, que je connais très bien, j'ai mes amis là. Non, je fais partie de ce milieu, sans être encarté. Pour qui Onfray était un dieu, pour la bonne raison que son fonds de commerce initial, ça a été l'athéisme.
Ah, oui,
voilà,
oui,
c'était très important. Il enfonçait des portes ouvertes avec l'athéisme, hein, il suffisait de lire Voltaire et d'autres, hein, il y a eu quand même beaucoup de gens avant lui, mais il en a fait son créneau. Alors tout de suite, il s'est fait passer pour libertaire, voire même anarchiste. Maintenant, il en est, dans ce dernier livre sur Camus, à développer une théorie sur le post-anarchisme. Donc je crois que là, alors ce livre est très intéressant, d'une part, parce que, je le répète, il montre sous les traits les plus simplistes ce que peut devenir un renégat, qui décide de faire une carrière dans le reniement de ce qu'il était avant. C'est-à-dire, il passe son temps à battre sa coulpe sur la poitrine des autres. Alors maintenant, c'est ça sa technique. C'est toujours la même technique. Les penseurs de seconde zone ont besoin de se jucher sur les épaules de penseurs, qui sont des grands penseurs, que ce soit Freud, que ce soit Sartre, que ce soit Marx, pour avoir l'air de géant de la pensée. Et en fait, c'est un nain, mais il est toujours... Il se fructifie soit en se réclamant de quelqu'un de grand, c'est rare, hein, soit en prenant un grand pour montrer qu'il est tout petit, le grand, et que lui, donc, par ailleurs, automatiquement, il apparaît beaucoup plus important. Je crois qu'il faut, même s'il y a des lecteurs du monde diplomatique qui sont encore abusés par cet imposteur, ce falsificateur, parce qu'il il y a toutes les trois pages, toutes les trois, je dirais, par page, il y a trois erreurs, soit de mauvaise foi ou dictées par l'ignorance, qui est crasse, entre parenthèses. Alors, quand vous multipliez par 550, c'est l'overdose. Hein. Alors, et pourtant, je ne suis pas masochiste. Mais j'ai dit là, on a un code Bendit, si vous voulez. Un code Bendit de la philosophie. Bon, je termine là.
Merci. Merci à tous. Merci Renaud Lambert, Alain Grèche, Gérard Duménil, Benoît Bréville et Anaël Verzeau. À lire sur la Seine-Saint-Denis et sur les questions qui ont été soulevées dans ce numéro du Diplo, un livre de Patrick Braouzet, que vous connaissez, mais « Où va la ville populaire ?», où il aborde le même sujet à sa façon. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, et sur le site là-bas.org, même jeu, vous pouvez réécouter, faire des commentaires, et puis vous pouvez nous retrouver aussi sur la page Facebook de notre émission. Yann Bouillot et Frédéric Boeuf ont été à la technique aujourd'hui, Bertrand Chometon et Franck Adhérère ont réalisé cette émission montée par Guy Ventil, Marina Touillez nous assiste et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de la basse J'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Ceci n'est pas une pub qui vous dira que les Africains ne sont que des assistés. Ceci n'est pas une pub qui vous dira que les Indiens sont borgnes ou cujates. Ceci n'est pas une pub qui vous dira que les enfants des favelas sont violents ou drogués. Ceci est une pub pour vous rappeler que les hommes et femmes des pays du Sud ont du talent et des idées. Aidez-nous à soutenir leurs projets. En 2011, grâce à votre générosité, le CCF des Terres Solidaires a soutenu 500 projets dans 63 pays. Ensemble, continuons. ccfd-terresolidaires.org.
France Inter et le Théâtre de la Ville à Paris présentent, du 6 au 24 mars, Victor ou les enfants au pouvoir de Roger Vitrac, mise en scène par Emmanuel de Marcimota. Dans ce chef-d'œuvre du surréalisme où le burlesque côtoie le tragique, Roger Vitrac invente un théâtre du fantastique ancré dans le réel. Une nouvelle création avec la troupe du Théâtre de la Ville, dont Hugues Kester, Élodie Bouchèze, Serge Maggiani, Thomas Durand, Valérie Dashwood. À retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h et une poignée de secondes sur Inter. On se retrouve lundi à 15h pour la basse et j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
Le convoi d'aide humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge est arrivé à Homs cet après-midi en Syrie. Composé de 7 camions, il s'apprête à entrer dans le quartier de Babamer, tombé hier aux mains des forces de Bachar el-Assad. Il transporte des vivres et des denrées de première nécessité. Les journalistes français, eux, qui ont été évacués hier soir, sont en route pour Paris. Ils sont attendus d'ici 2 heures à la base aérienne de Villacoublay dans les Yvelines, où ils seront accueillis par Nicolas Sarkozy. La mauvaise nouvelle espagnole aujourd'hui, le jour où 25 pays de l'Union européenne signent un pacte qui instaure plus de discipline budgétaire. Madrid donc annonce aujourd'hui, par la voix du Premier ministre Mariano Rajoy, que le déficit espagnol va dépasser l'objectif prévu pour 2012. L'Espagne sera donc dans l'impossibilité de respecter ses engagements auprès de la Commission européenne, Mathieu de Taillac.
L'Espagne a décidé de revoir unilatéralement son objectif de déficit pour 2012. 5,8% du PIB au lieu des 4,4% prévus. Mariano Rajoy a précisé qu'il n'avait pas consulté ses partenaires européens. Il s'agit d'une décision souveraine de l'Espagne, a-t-il déclaré. Une décision controversée, critiquée presque immédiatement par l'Allemagne. Il faut dire que depuis les semaines, Madrid insistait pour renégocier son objectif, mais Bruxelles faisait la sourde oreille. En Espagne, tout le monde ou presque jugeait que l'objectif initial était inatteignable, car en 2011, le déficit s'est élevé à 8,5%, et la Commission prévoit que la croissance de l'Espagne sera négative en 2012, à moins 1%. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
Marine Le Pen était au salon de l'agriculture aujourd'hui, porte de Versailles à Paris, et l'accueil a été plutôt bon, dit-on sur place, pour la candidate du Front National. Au cours de sa visite, elle a rencontré notamment à huis clos l'Association nationale interprofessionnelle du bétail de viande, qui lui reprochait entre autres d'avoir lancé la polémique sur la viande halal en Île-de-France. Dans les échos de la campagne présidentielle, le tribunal de grande instance de Paris a débouté aujourd'hui de son action en référé le fondateur d'une formation politique du Val-de-Marne, Nogent C'est maintenant. Ce dernier voulait interdire l'usage du slogan de campagne de François Hollande, le changement c'est maintenant. Le Parti Socialiste toujours demande aujourd'hui au gouvernement un moratoire sur les chantiers à risque en attendant de renforcer la protection contre l'amiante. Cette requête intervient à la suite d'un rapport remis en septembre au gouvernement par l'Institut de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement a refusé aujourd'hui ce moratoire. Pas besoin, dit-il, puisque la réglementation sera modifiée au premier semestre 2012. Le patron des buralistes de France se dit aujourd'hui effaré par les propositions torchons d'Yves Bur. Dans son rapport, le député UMP veut baisser de 30 à 15% la proportion des fumeurs en France et pour y parvenir, il propose de déconnecter les ventes de cigarettes des revenus des buralistes. Vous écoutez France Inter, 16h03.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Émission spéciale en public ce samedi à la Foire du Livre de Bruxelles. Nous recevrons l'écrivain belge Grégoire Paulet pour son nouveau roman. Nous serons avec Emmanuel Carrère et Sorge Chalandon pour un entretien croisé exclusif. Nous décrypterons avec eux les succès Limonov et Retour à Quilibets. Il sera aussi question d'érotisme, l'un des thèmes de cette Foire du Livre. Nadine Monfils et la BDiste Aurélia Horita évoqueront le corps sans complexe.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad, tous les samedis à 17h. France Inter. La différence.
Alors papy, on a réduit la lumière. On fait comme Macha.
Pourquoi vous vous mettez en colère? Mais je vous rendrai l'émission à l'heure. À 17h, vous aurez votre train, Laetitia.
Il est gentil, maintenant c'est toute ma vie.
Je vous embrasse. Je me sens tout chose quand je vous vois.
On va en parler après.
Quand la musique donne... sur France Inter.
Rencontre pop au sommet cet après-midi avec la grande Sophie et le groupe Pony Pony Run Run. Mais tout de suite, le mix libre du mois de mars, il est nouveau. Après 3 ans de silence, c'est le grand retour sur le label Warp de Chris Clark, simplement appelé Clark, qui pour le coup invite l'une des muses de Tricky, Martina Topleber. Hey boy, look at you. Avec eux, le changement, c'est maintenant, 1995, pour désigner ce collectif de 5 MC et un DJ, pros affolants de la rime, qui ont obtenu leur permis du rap par la toile et le buzz.
Oh, un 995, mon gang venu pour mailler sans faire le tap à ton talent. Cette fois dans ta grande bouche avant de faire le mal, je me demande d'où ils sortent, se faisant passer pour mes doyens. Mais on va se défendre avec le rap et le respect des anges, crois-moi. Aussi vrai qu'il voit un P6, je me tiens à l'écart du vice et reste droit. Cheval de droit, fixé sur l'industrie du disque. À quoi on reste les mêmes entiers et par la rime. Un beat de l'autre qui fait flot des flots et par ma team. Avis à ceux qui nous prenaient pour des titres. On revient bousiller le jeu, bien préparé pour le titre.
Fini de blaguer, on passe à la suite. Les années filent et mon équipe reste à la biche. On s'énerve pas les passes, demande à ta clique. On prendra pas la source sans être fataliste.
La québécoise Ariane Moffat revient avec son 4e album intitulé Ma, concept japonais qui met en lumière une expérience sensorielle du vide avec le corps comme arme fatale.
Quoi faire avec mon corps, le trafiquer pour parvenir à trahir son âge. Quoi faire avec mon corps, les visser des vitons au talon pour le confort. Quoi faire.
Thank you. japonaise, un britannique et un suédois s'harmonisent pour faire naître le groupe Tristesse Contemporaine. Entre ferveur brute et hypnose de la fièvre du samedi soir. I didn't know that the city was a heart attack. I'm at the station, but I'm never gonna find the tracks. I was surprised to see you standing in the cold. A thousand miles just to tell me when I'm getting old.
Le mix libre. À retrouver en détail sur franceinter.fr. Quand la musique donne...
Rock, musique électro, techno...
Chanson, rap...
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment... C'est une vibration.
Didier Varro.
Elle est née à Thionville. Ils sont nés à Angers et Trappes. Elle a commencé seule dans les bars, accompagnée de sa guitare et de sa grosse caisse. Ils ont débuté en sillonnant l'Europe, partant avec leur propre camion, sans label ni tourneur. Elle se souvient du concert fêtant la sortie de son premier album, au Palace, vêtue d'un manteau pailleté, avec une entrée en scène sur la musique de Podan. Ils se souviennent du festival Playground, en Corée du Sud, où ils ont joué sous un déluge d'eau, devant 500 petites créatures enroulées dans des ponchos. Ils aiment aussi bien Steve Reich, Nirvana, Two Unlimited, que Ultravox, les Stone Roses, Jimi Hendrix, et même le Zouk. Elle aime aussi bien PJ Harvey, Emilia.